Chapitre 39. Monsieur Darverne avait recommandé que le docteur Harley vînt le trouver dans son cabinet aussitôt que possible. Mais avant que le médecin sortît de chez sa malade, près d'une heure s'écoula. Alors on le conduisit à la porte du cabinet de monsieur Darverne. Il frappa et entra. La vaste pièce était pleine d'ombre, une seule lampe posée sur le bureau et coiffée d'un abat-jour l'éclairant. Assis, affaissé dans un fauteuil à une certaine distance de ce bureau, se tenait M. Darverne. Devant lui, sous la lumière de la lampe, étaient les portraits de Louis et d'Eugénie. Assurément, il n'avait point entendu les coups frappés à sa porte, car au bruit que fit Harley en s'avançant, il releva brusquement la tête et Harley vit son visage convulsé, inondé de larmes. « Rassurez-vous, monsieur le duc, » dit Harley vivement. « Madame la Duchesse a repris connaissance, toute sa connaissance. Cela ne sera rien. » Tristement, M. Darverne secoua la tête. « Ce n'est pas sur elle que je pleure, » dit-il fièrement. Étendant la main vers les portraits de ses enfants, « C'est sur eux, » s'écria-t-il d'une voix brisée, « sur eux, les pauvres enfants. Mon Dieu, que deviendrait-il si je mourais avec une mère comme la leur ? Devant vous qui avez une fille, je n'ai pas honte de montrer mes angoisses, ma faiblesse, mon désespoir. » Mais c'étaient là des paroles. La honte, au contraire, lui fit enfoncer son visage dans ses deux mains et il resta ainsi caché, la tête basse, jusqu'à ce qu'il eût pu, par un effort énergique, se rendre maître de son émotion. Seul, anéanti par la douleur, il s'était abandonné. Maintenant, le respect humain lui faisait un devoir de se contenir. Devant la faiblesse de cet homme, qui avait donné tant de preuves de courage, d'audace, et qui avait soutenu à lui seul le poids écrasant des résolutions les plus terribles, Harley restait muet, ému et troublé. Pour lui, la situation était grave. Il était l'ami de Roger, et bien certainement d'un instant à l'autre, son amitié allait être mise à l'épreuve. Pendant plusieurs minutes, M. Darverne garda le silence. Dans le calme de la nuit, on n'entendait que sa respiration oppressée. Enfin, il abaissa ses mains et releva sa tête. Ses larmes avaient séché, ses yeux étaient brûlants. « Un hasard, dit-il, vous a rendu maître d'un secret que vous soupçonnez déjà sans doute, comme tout le monde, que vous connaissiez même peut-être. Dans son délire, cette malheureuse femme a parlé et elle a confessé sa honte. Il ne faudrait pas attacher trop d'importance à des paroles prononcées dans le délire. En donnant vous-même le nom de délire à cette crise, vous l'avez caractérisée. Vous savez que le propre du délire est d'associer des idées incompatibles et de les prendre pour des vérités réelles. » M. Darverne interrompit par un geste d'impatience ces phrases filandreuses que le médecin débitait sans conviction d'ailleurs. « Je vous remercie, dit-il, mais ces paroles prononcées dans le délire ont été la suite et même la répétition de celles qui avaient été prononcées en pleine raison quelques instants avant cette crise. Je dois donc les prendre pour ce qu'elles sont. D'ailleurs, vous comprendrez que je ne puis me faire aucune illusion à leur égard quand je vous aurais dit que Madame Darverne vient de m'annoncer en rentrant de Fontainebleau qu'elle partait avec Monsieur de Naurouze pour Arcachon. C'est de la folie! C'est justement ce que je lui ai dit. Et c'est quand elle m'a entendu la menacer de la faire enfermer comme folle qu'elle est tombée dans cette crise. Eh bien, ce que je lui ai dit, ce que vous venez de dire vous-même, je vous demande de le lui répéter. Moi, monsieur le duc. N'êtes-vous pas son médecin? Et n'est-ce pas là un cas de maladie à traiter? Et puis, à qui puis-je m'adresser pour intervenir entre elle et moi et la ramener à la raison? De parents, je n'en ai plus. Son père, il n'est point par malheur l'homme d'une pareille mission. Il l'a élevée sans jamais s'occuper d'elle, la laissant libre de faire ce qu'elle voulait, s'imaginant que toute responsabilité cessait pour lui si elle était heureuse, ou plutôt si elle s'amusait. Il n'a rien à dire, rien à faire, puisque ce n'est point elle qui se plaint. Des amis, voulez-vous que je fasse ma confession à celui-ci, à celui-là? jusqu'à ce que j'en ai trouvé un qui veuille agir et qui ait qualité, qui ait autorité pour agir. Non, docteur, non. Allez près de cette folle et calmez-la. Elle a confiance en vous, et cette confiance est d'autant plus grande que vous êtes l'ami de... celui qu'elle aime. Faites-lui entendre le langage de la raison, de l'honneur. Si elle ne vous écoute pas, agissez comme médecin, mais que son idée de suivre M. de Naurouz à Arcachon ne se réalise pas, car je ne la laisserai pas partir. » Harly se trouvait dans une terrible perplexité et en présence d'une responsabilité qui pouvait devenir des plus lourdes. D'un côté, il se trouvait pris de pitié pour ce père, et d'autre part, il tremblait pour Roger. Une fois encore, il voulut s'échapper. « Assurément, dit-il, si Madame Darverne vous a annoncé ce projet, ce n'était point une parole sérieuse, c'était une menace, un défi. Elle était déjà sous l'influence de la crise qui allait se déclarer. Vous le dites vous-même, c'est une maladie. Et voilà pourquoi je vous la confie, c'est pour que vous la guérissiez, ou tout au moins pour que vous la calmiez. Qu'elle soit inconsciente du mal qu'elle fait, ou bien qu'elle n'en soit pas responsable, je vous l'accorde, je veux le croire. Mais est-ce une raison pour la laisser libre de faire ce mal? Parce qu'ils ne sont pas responsables, laisse-t-on les fous libres? On les enferme, n'est-ce pas? On les met dans l'impossibilité de nuire. Eh bien, j'agirai avec elle comme on agite avec les fous. Qu'elle persiste dans son idée de suivre le duc de Naurouz, et j'appelle le préfet de police qui l'a fait enfermer. » Il parlait avec violence, furieusement, en frappant le bras de son fauteuil à le briser. C'était l'homme qui ne recule devant rien, que rien n'arrête lorsqu'il est engagé. Harly, cependant, voulut tenter un effort pour empêcher cette exaltation d'arriver à son paroxysme. « Il n'y a pas de maison d'aliénés qui la recevrait, dit-il avec calme, mais en même temps avec autorité. En tout cas, il n'y en a pas qui la garderait. » Avec M. Darverne, ce moyen n'était pas le bon, la contradiction n'ayant d'autre effet que de l'exaspérer. Brusquement, il bondit en avant. « Et quand j'aurai fait constater le flagrant délit d'adultère par un commissaire de police, s'écria-t-il, quand j'aurai fait condamner cette femme par un tribunal, il y aura des prisons pour la recevoir, n'est-ce pas, et pour la garder? Dites-lui cela, qu'elle sache cela, qu'elle comprenne. Elle est restée sourde à la voix de l'honneur, à celle du devoir, à celle de la tendresse maternelle. Elle écoutera peut-être celle de la crainte. » Dites-lui que c'est un homme à bout de patience, exaspéré, fou lui-même, fou de colère et de douleur, qui menace, et peut-être aura-t-elle peur. Elle vous répondra que je n'oserai jamais. Dites-lui si celui que vous voyez en ce moment est homme à n'oser point et à se laisser arrêter. » Les cheveux rejetés en arrière, le visage blême, les yeux hagards, les lèvres tordues, les bras croisés sur la poitrine, il vint se camper en face de Harly, terrible, effrayant. Il poursuivit. « Elle vous dira que la peur du déshonneur pour mon nom et pour mes enfants me retiendra. Vous lui répondrez que non, car elle nous déshonore elle-même plus honteusement que ce procès ne pourrait le faire. Au moins, ce sera fini une fois pour toutes. Mieux vaut que cela arrive pendant que les enfants sont jeunes encore. » Ils ne connaîtront rien de ce procès, et plus tard, quand ils seront en âge de se marier, la honte de leur mère sera oubliée, au moins jusqu'à un certain point. Il s'arrêta épuisé et se laissa tomber sur un fauteuil, où il resta assez longtemps, haletant, sans que Harly osât rien dire, de peur de surexciter à nouveau cette fureur qui devait s'user par sa violence même. « Cela vous étonne que je me décide à agir enfin, après avoir si longtemps souffert sans révolte et tout supporté sans éclat? Pourquoi pas alors, n'est-ce pas? Et pourquoi maintenant? À tout prix, je voulais éviter le scandale, je le voulais par fierté, je le voulais pour mon honneur, pour celui de mes enfants. » Il montra les portraits. « Louis, Eugénie, les miens. » Et puis, je me disais, elle vieillira, l'âge calmera ses emportements de la passion, elle deviendra dévote, peut-être elle mourra, car j'en étais arrivé à admettre sa mort comme une délivrance, moi qui l'aimais. Mais l'âge n'a rien calmé, au contraire. La dévotion n'est pas venue, la mort non plus. Allez, docteur, montrez-lui la terrible nécessité à laquelle elle me pousse, malgré moi, et encore une fois, essayons de l'arrêter dans sa folie. Allez. L'hésitation n'était plus possible. Si désagréable, si difficile que fût cette mission, Harley devait l'accepter. Il le devait pour le duc d'Arverne et la duchesse, il le devait plus encore pour Roger, car si le hasard venait de mettre entre ses mains l'honneur du duc et de la duchesse, c'était la vie de Roger qu'il y avait mise en même temps. Pour l'honneur du duc, il fallait qu'elle renonçât à son idée d'aller à Arcachon. Pour la santé, pour le rétablissement de Roger, il fallait qu'elle consentît à le laisser vivre seul pendant plusieurs mois là-bas. Avec une femme comme elle, la tâche serait rude. Mais si rude qu'elle fût, il ne la déserterait point et il s'y emploierait entièrement. Seulement, ce n'était pas tout de suite, à cette heure avancée de la nuit, qu'il pouvait entreprendre sa négociation. Ce fut ce qu'il expliqua à M. d'Arverne. Quand j'ai quitté Madame la Duchesse, elle commençait à s'endormir. Je ne puis pas aller troubler son sommeil pour traiter avec elle un sujet aussi grave, aussi difficile. Ce serait s'exposer à provoquer une nouvelle crise, mais je vous promets que demain matin, si, comme je l'espère, elle est en état de m'entendre, je m'acquitterai de la mission que vous me faites l'honneur de me confier avec tout le zèle et toute l'énergie dont je suis capable. Vous auriez pu mettre votre cause en des mains plus habiles, mais non plus dévouées. Il fallut que, malgré son impatience, M. d'Arverne acceptât ce retard. « Alors, à demain, dit-il, ou plutôt, à bientôt. » Et, tirant son fauteuil, il s'assit devant son bureau. « N'allez-vous donc pas vous coucher ? » demanda Harley en lui prenant le poignet. « Vous avez le plus grand besoin de vous calmer, de vous reposer. » Si c'était pour dormir sans rêve, oui, je me coucherais. Mais aux rêves de mon sommeil, je préfère les réalités de la veille. À demain, à la première heure, n'est-ce pas ?